en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, parmi plus de 300 membres et correspondants de l'Académie des sciences, nous comptons quelques philosophes des sciences, et notamment Claude Debreu, qui est notre invité pour cette nouvelle émission en habit vert. Claude Debreu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du département de philosophie et responsable du collectif Histoire, philosophie, sciences à l'ENS, correspondant de l'Académie des sciences et membre de la Deutsche Akademie des Naturforscher Leopoldina. Pour cette émission qui vous est consacrée, nous avons décidé d'aborder votre parcours à travers les nombreuses rencontres qui ont jalonné votre carrière. Vous nous parlerez de vos travaux au contact de Jeffrey Zwieman, de Jean-Pierre Changeux sur la biochimie des protéines, de votre rencontre également avec François Jacob, François Gros. Nous irons faire un tour du côté du sommeil et du rêve, suite à votre collaboration avec le neurobiologiste Michel Jouvet à Lyon. Nous ferons un détour par Strasbourg. Vous avez assuré la responsabilité du Centre européen d'histoire de la médecine, sous la houlette de Pierre Carli. Et nous reviendrons à Paris, à la Salpêtrière, au Centre d'écologie cellulaire, où là vous nous expliquerez votre rencontre avec Marcel Bessis et Jean Bernard. Mais commençons, si vous le voulez bien, par l'une de vos premières rencontres, celle de Georges Canguilhem, le philosophe et médecin Georges Canguilhem. À cette époque, vous êtes ancien élève de l'ENS, agrégé de philosophie, et donc docteur de troisième cycle sous la direction de Georges Canguilhem. Quels souvenirs gardez-vous de vos rencontres et peut-être de votre première rencontre avec Georges Canguilhem ?
Merci. Effectivement, c'est une question tout à fait émouvante que vous me posez. Ma première rencontre avec Georges Canguilhem date d'une époque lointaine maintenant. Je pense que c'était l'hiver 66, dans une époque qui était lourde de modifications profondes sur le plan intellectuel et aussi sur le plan social. Donc, ma première rencontre avec Georges Canguilhem date de cette époque-là. Il avait souhaité me voir, j'avais souhaité le voir, j'avais été introduit par Michel Serres. Et donc, vous voyez, c'était un monde qui était à l'époque, je dois le dire, intensément vécu. Alors, ma première rencontre avec Georges Canguilhem était celle d'un homme qui savait juger les autres. C'était sa fonction. Il avait été inspecteur général de l'éducation nationale en philosophie pendant un certain temps. Il avait un prestige immense. Il avait une réputation sur le plan du caractère assez singulière, je dirais. Mais bon, nous nous sommes assez bien entendus pendant de très longues années.
Est-ce que c'est lui qui a fait que vous vous êtes tourné petit à petit vers la philosophie des sciences, terme d'ailleurs que vous n'aimez pas beaucoup, vous allez pouvoir nous en parler.
Je dois dire qu'il avait une singularité absolument frappante, une véritable singularité. Il était très différent de tous les autres enseignants de philosophie qui existaient à l'époque. Canguilhem était un homme entier, d'une certaine façon. Il disait tout à fait clairement ce qu'il pensait. Il avait cette singularité d'avoir une double culture, ou même une triple culture. Il avait la culture nécessaire du philosophe français, il avait la culture de la médecine, il avait aussi une culture plus vaste, politique, etc., etc., et aussi une culture, je dirais, orientée vers l'Allemagne. Et c'est là que nous retrouvons la Deutsche Akademie der Naturforschung Leopoldina, parce que beaucoup des auteurs qu'il a fréquentés lorsqu'il a rédigé sa thèse historique, le normal et le pathologique, étaient en réalité des auteurs allemands. Et ceci est d'autant plus remarquable que nous étions en 1943 et que Canguilhem était l'un des chefs de la résistance en Auvergne. Voilà. Donc tout ceci faisait, si vous voulez, une espèce de personnalité absolument unique.
Est-ce que c'est lui qui vous a du coup fait vous tourner vers les sciences, la philosophie des sciences ?
Certainement, j'avais besoin de quelque chose comme ça, d'une orientation de ce genre, d'autant plus que mes liens avec la philosophie ont toujours été un petit peu conflictuels et que je trouvais que les sciences méritaient d'être pratiquées, non seulement étudiées, mais même pratiquées. Et d'autre part, j'avais par tradition familiale un goût prononcé pour la biologie, ce qui a sans doute facilité les choses.
Alors, revenons sur un point de vocabulaire. Qu'est-ce que la philosophie des sciences ? Peut-être faire une aparté et sur ce terme qui a tendance un petit peu à vous agacer.
Oui, philosophie des sciences, c'est un label universitaire. Je ne sais pas très bien ce que signifie ce terme philosophie des sciences. C'est un terme tout à fait consacré. Paradoxalement, le risque de la philosophie des sciences est de faire de la philosophie des sciences comme une spécialité, c'est-à-dire une spécialité académique qui se fait dans des départements de philosophie où le contact avec les sciences n'est tout de même pas immédiatement garanti, n'est pas direct. Et donc la philosophie des sciences risque d'être, je dirais, prisonnière de certaines problématiques qui finalement sont un petit peu à l'écart du progrès considérable des sciences. Et risque de poser des questions qui n'ont de sens que pour les philosophes et qui ont peut-être moins de sens pour d'autres. Bon, cela dit, je crois qu'il faut nuancer le propos que je viens de tenir. Il y a la philosophie, qui est une grande chose, une grande tradition, une grande maison, tout ce que vous voudrez, une tradition considérable de pensée, de réflexion. Il y a les sciences, qui sont méthodologiquement très, très, très différentes. J'ai beaucoup pratiqué les sciences expérimentales. Le lien avec la philosophie, il existe, bien sûr, mais il faut l'extraire, il faut le chercher. Et donc, si vous voulez, la philosophie des sciences, pour moi, ça serait plutôt de la philosophie vraie, mais plus au contact des sciences, plus dans les sciences. Et c'est une interface entre science et philosophie qui est difficile à, je dirais, à former. Il est difficile de lui donner forme à cette interface-là. Mais c'est absolument passionnant. Et je trouve que la dimension spéculative qui subsiste fort heureusement dans les sciences, dans beaucoup de sciences, est aussi un terrain d'action pour des philosophes qui souhaitent s'immerger dans le milieu scientifique, ce qui est évidemment un bénéfice immense.
Et la philosophie des sciences est-elle bien implantée en France? Parce qu'on peut l'imaginer peut-être implantée en Allemagne, vous parliez de l'Académie Léopoldina. Peut-être qu'en Grande-Bretagne également, elle est bien implantée. Quelle est notre situation ici en France?
Alors en France, la situation n'est pas mauvaise, loin de là. En France, nous avons une tradition qui consiste à lier fortement l'histoire des sciences et la philosophie des sciences. Et je pense que cette tradition, elle est excellente, elle est d'ailleurs reconnue, elle est saluée et d'autres pays la pratiquent également. La philosophie des sciences s'étant, si vous voulez, spécialisée dans un certain sens, a malgré tout besoin de retrouver un terrain. Et l'histoire des sciences en est un. C'est un terrain, je dirais, d'exercice pour la philosophie des sciences. Donc, l'histoire des sciences en France est très, très bien représentée. Il faut voir dans les congrès internationaux l'influence que nous avons, qui est très réelle. La philosophie des sciences, il faut l'encourager. Nous l'avons fait. Il y a des sociétés qui se sont créées récemment. Il y a des groupes, il y a des instituts. Et il est bon que les jeunes gens, garçons, filles, rentrent dans cette voie qui est une voie intellectuellement extraordinairement intéressante.
Alors
extrêmement,
voilà.
Ils en tireront un bénéfice immense.
Le message est lancé. Faisons un bond en avant. Nous étions en 1966, qui correspond à l'époque à laquelle vous avez rencontré Georges Canguilhem. Avançons dans le temps à aujourd'hui, actuellement. Vous travaillez avec Pierre Buzet. Vous souhaitiez parler de Pierre Buzet vos travaux actuels qui portent justement sur la philosophie des sciences.
Voilà. Alors, faisons un bond en avant. Oui, je tiens à dire que le philosophe des sciences, quel qu'il soit, a tout intérêt, je tiens à le redire, à travailler autant que possible aux côtés des scientifiques et je dirais dans certains moments privilégiés avec les scientifiques.
Ce n'est pas toujours le cas ?
On ne le fait pas toujours. On ne passe pas 100% de sa vie en dialogue avec les scientifiques. Mais je dis qu'il y a des moments privilégiés où cela est le cas. Cela a été le cas pour moi pendant de longues années avec Michel Jouvet, nous en reparlerons. Et cela est actuellement le cas avec Pierre Buzet, avec lequel j'ai beaucoup travaillé pour un colloque franco-allemand sur l'imagination et l'intuition dans les sciences, et avec lequel je continue à travailler sur des questions à l'interface précisément entre neurosciences et philosophie, qui sont des questions qui touchent la temporalité, c'est-à-dire l'expérience consciente du temps et le rôle des constituants temporels dans les faits de conscience. Ce sont des questions qui ne sont absolument pas résolues. Ce sont des questions assez fondamentales. Et là, on peut voir, je dirais, l'esprit scientifique et l'esprit philosophique essayer de se fondre l'un dans l'autre pour formuler, avancer.
Je vous propose de marquer une première pause, si vous le voulez bien, Claude Debru, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Escalope d'éléphant, sauce aux échalotes, singe au vin de Bordeaux, ou encore ours à la sauce troussenelle, tel pouvait être le menu du réveillon du 31 décembre 1870. Il faut dire que le siège de Paris a donné lieu à de bien curieuses expériences gastronomiques. Écoutez le curieux récit de cette période de l'histoire. Elle vous est racontée par notre chroniqueur gastronomique Jean Vitaud. Les expériences gastronomiques du siège de 1870, une émission à télécharger librement sur le site de canalacademy.com.
Suite de notre émission en habit vert, en compagnie de Claude Debrus, philosophe des sciences, correspondant de l'Académie des sciences, venons-en, si vous le voulez bien, nous refaisons un bond en arrière à votre thèse. Votre thèse qui porte sur la biochimie des protéines. Comment un philosophe s'intéresse à la biochimie des protéines? Quel était l'objet de votre travail?
Comment un philosophe peut-il s'intéresser à une chose aussi éloignée de la philosophie que la biochimie des protéines? Eh bien là, je dois mentionner le nom de mon directeur de thèse, qui était François Dagonier, à Lyon, et je suis allé à Lyon par la suite. Je dois beaucoup à François Dagonier. Celui-ci était philosophe et médecin, disciple de Gaston Bachelard, ami de Georges Canguilhem. Il a eu un rôle important dans cette orientation vers une science qu'il connaissait en tant que médecin, qu'il connaissait en tant que philosophe à Lyon, où tout de même la chimie et la biochimie à l'intérieur de l'université ont toujours eu une grande place. Et donc il connaissait ces choses-là et il m'a orienté dans cette direction très certainement, et cette direction s'est avérée fructueuse. Alors, bon, ça n'a pas été sans mal. Une thèse, c'est un itinéraire scientifique et un itinéraire personnel qui n'est pas toujours facile, surtout dans des domaines comme cela. Et donc, le problème est parfois de surmonter des doutes, de trouver les bonnes personnes. Et là, je voudrais rendre aussi hommage à François Jacob, qui a été dans un moment précisément de doute, un conseil extraordinairement judicieux.
Vous doutiez sur l'objet de votre thèse ?
Oui, je veux dire que la thèse est une aventure, à l'époque, était une aventure très personnelle, très individuelle, assez isolante. Et donc, il y a un moment où on a besoin d'être soutenu, de contact, etc., etc., pour pouvoir progresser, sans qu'on ne progresse plus. C'est tout à fait clair. Donc, François Jacob, à ce moment-là, m'a relancé, en quelque sorte, en me donnant une clé. La clé s'appelait Jeffries Wyman, dont vous avez parlé. Jeffries Wyman était un biologiste moléculaire, un biophysico-chimiste. Et je veux dire que la rencontre avec Jeffries Wyman, ça se passait à Rome en 1978, si mes souvenirs sont exacts, dans son appartement sur la place du Palais Farnèse, a été quelque chose d'aussi exceptionnel que ma rencontre avec Georges Canguilhem. Oui, aussi déterminant. Parce qu'il m'a ouvert, je dirais, un univers dont je n'avais rigoureusement aucune idée. C'était celui de la science en train de se faire.
La science en devenir.
La science en devenir, la science en train de se faire, et la science en train de se faire dans un monde totalement internationalisé. Alors qu'il faut bien le dire, la philosophie très institutionnalisée en France manquait un petit peu à cette époque de cette ouverture internationale. Et donc, pour moi, ça a été une découverte absolument fabuleuse. Et cela m'a permis sans doute d'écrire dans de bien meilleures conditions ce travail sur la biochimie des protéines.
Vous citez également Jean-Pierre Changeux.
Jean-Pierre Changeux, bien sûr. Jean-Pierre Changeux, à l'époque, je l'ai un petit peu connu, un petit peu fréquenté, puisqu'il était l'un des acteurs de cette histoire également, avec Jacques Monod et Jeffries Wyman, et bien d'autres. Mais enfin, cette thèse s'est concentrée un petit peu sur ce fameux modèle Monod-Wyman-Changeux de la transition allostérique des protéines qui a été élaboré en 1965. Mais bien sûr, pour pouvoir faire ce travail, il fallait avoir un arrière-plan d'études scientifiques. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que les études scientifiques que j'ai pu faire à la Faculté des sciences de Paris au début des années 70, ça a été quelque chose également d'extraordinaire pour moi, parce que, imaginez-vous, un philosophe qui est quand même éduqué dans Kant, Leibniz, Auguste Comte, Bachelard, etc., découvrant par des enseignements très remarquables donnés en première année les dernières expériences de la biologie moléculaire, dans toute leur subtilité et dans tout leur caractère démonstratif, c'était une expérience extraordinaire, tout cet enseignement-là. Et l'enseignement de la physique pour les médecins en deuxième année, Et c'était également une expérience extraordinaire parce que ces enseignements étaient faits par des gens qui étaient vraiment, je dirais, le biologiste Michel Durand était un élève de Jacques Monod, le physicien Maurice Duquesne était un élève de Frédéric Joliot, bien sûr. Donc, je veux dire, nous avions là une source d'inspiration et une discipline d'enseignement qui était vraiment tout à fait remarquable et je tiens à rendre hommage à ces maîtres de la Faculté des sciences de Paris.
C'est la raison pour laquelle, par la suite, vous vous êtes intéressé à la science du possible, l'imagination et l'intuition dans les sciences. C'est oui. À partir de ce moment-là, à partir de la rédaction de votre thèse.
Alors, il y a quelque chose de très très juste dans ce que vous dites. Parce que s'intéresser au modèle de Monod-Wiedemann-Changeux de la transition allostérique des protéines, qui datait d'il y a quelques années, mais c'était l'aboutissement de toute une histoire depuis le 19e siècle de la biochimie des protéines que j'ai tenté de reconstituer dans ce travail. Eh bien, s'intéresser à ce modèle faisait très largement appel à l'imagination. Parce que tout simplement, on était à l'époque où la structure des protéines était beaucoup mieux connue grâce à la cristallographie aux rayons X, grâce aux travaux exceptionnels de personnalités comme John Kendrew ou Max Perutz. Et l'aspect visuel des choses et la dynamique interne des choses qui se révélaient dans ces modèles était quelque chose d'absolument fascinant. Ça faisait précisément appel à l'imagination. Et ça donnait à penser par l'intermédiaire de l'imagination. Parce que l'on voyait, si vous voulez, comment dans ces molécules, à travers l'exercice de leurs fonctions, qui se traduisaient par des modifications de conformation, on pouvait relier, je dirais, un aspect théorique, intellectuel très fort, un aspect fonctionnel très fort, mathématique, et c'était en particulier l'œuvre de Jeffries Wiman, qui était un grand théoricien de la physico-chimie des protéines. Et puis l'aspect, je dirais, esthétique, puisque Monod tenait beaucoup à son concept de conservation de la symétrie à travers la transition allostérique des protéines. Et puis l'aspect, je dirais, biologique fondamental, biochimique, qui était le travail des modèles très argumentés, qui était le travail de Jean-Pierre Changeux.
Alors nous pourrions parler encore pendant beaucoup de temps de la biochimie des protéines. Je vais simplement indiquer à nos auditeurs un ouvrage qui a été édité suite à cette thèse, L'esprit des protéines, histoire et philosophie biochimique. Donc ouvrage que vous avez rédigé aux éditions Hermann, qui a été publié en 1983. Avançons, si vous voulez bien, puisqu'il y a encore d'autres rencontres qui vont jalonner votre parcours. Passons à la date de 1981, où là, vous allez travailler avec Michel Jouvet, qui est connu pour avoir travaillé sur le milieu du sommeil et du rêve, et notamment avoir inventé le terme de sommeil paradoxal.
Oui, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'à cette époque-là, j'avais véritablement envie, très envie, après avoir passé un an aux États-Unis, à Harvard, j'avais très envie de devenir véritablement un chercheur scientifique. Et j'ai pu le faire partiellement, un petit peu, mais enfin ça a été une expérience extraordinaire pour moi, grâce à l'extrême générosité de Michel Jouvet à Lyon. Effectivement, j'ai cherché aussi, sur le conseil d'ailleurs de François Dagonier, à changer mon fusil d'épaule et aller voir du côté des sciences du cerveau, qui était en plein développement,
en pleine explosion
à cette époque-là. Et donc, j'ai demandé à 6 directeurs de laboratoire s'ils pouvaient m'accueillir. Et Michel Jouvet, parmi d'autres, a accepté de m'accueillir. Et j'ai finalement choisi d'aller à Lyon. Et je ne le regrette pas, parce que là encore, ça a été une expérience d'une créativité, de vivre à côté de quelqu'un, et d'une certaine façon d'interagir quand même, de quelqu'un d'aussi imaginatif, d'aussi créatif dans ses expériences et dans ses spéculations que Michel Jouvet, je veux dire, c'était vraiment marquant. Et je passais de cette façon d'un monde, dirais-je, beaucoup plus assez théorique, qui était le monde de Jeffries Wiman, une biochimie assez mathématisée, à un monde qui était celui de la médecine expérimentale, qui était quand même un monde assez différent, il faut le dire, avec des problèmes différents, des niveaux de complexité bien différents, des pratiques bien différentes. Et aussi cet aspect spéculatif qui m'a absolument enchanté parce que dans le laboratoire de Michel Jouvet, au contact de quelqu'un comme Michel Jouvet, on voyait réaliser cette espèce d'alliance de l'imagination expérimentale, de la création de nouvelles conditions pour faire apparaître des phénomènes nouveaux et des mécanismes nouveaux et des causalités nouvelles. Et en même temps, cette espèce de liberté spéculative que le scientifique conserve pour orienter ses recherches et aussi pour proposer des hypothèses théoriques. Je veux dire, c'était là encore une expérience tout à fait marquante pour moi que de passer 8 années dans le laboratoire de Michel Jouvet.
Quels ont été vos travaux à ses côtés ?
Un philosophe dans un laboratoire, c'est un philosophe en tant que philosophe, je dirais un philosophe à vocation épistémologique et je dirais surtout épistémophile. C'est une situation qui n'est pas évidente. Il faut du temps pour que l'individu en question s'intègre, pour qu'il trouve sa place. Et puis aussi, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que Michel Jouvet, dans cette époque où l'interdisciplinarité était quand même un petit peu au programme des neurosciences, Michel Jouvet, avec cette espèce d'état d'esprit extraordinairement ouvert et accueillant, avait organisé des séminaires réguliers avec les chercheurs de son laboratoire. Bien sûr, des séminaires de neurosciences au sens où ils discutaient les questions, les expériences, etc. Mais aussi des séminaires plus ouverts. Et donc, j'ai été un acteur dans ces séminaires plus ouverts. On a parlé de beaucoup de choses, de causalité dans les systèmes complexes, de parallélisme psychophysique, de choses de ce genre, de notions philosophiques ou un petit peu théoriques qui pouvaient être utiles à la formation permanente, à la formation continue des chercheurs du laboratoire. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, si vous voulez bien, Claude Debrue. Dans la troisième partie de notre émission, nous parlerons de votre rencontre avec Marcel Bessis et Jean Bernard, et puis de Pierre Carli à Strasbourg. A tout de suite. Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Claude Debrue. Nous en sommes à notre troisième partie. Nous allons parler de Marcel Bessis, Jean Bernard et de Pierre Carli. Mais avant, vous souhaitiez rajouter quand même quelques mots sur Michel Jouvet.
Oui, bien sûr, parce que c'est grâce à Michel Jouvet que j'ai pu mettre la main à la pâte. Je veux dire, il m'a permis de travailler à des recherches expérimentales et ce que j'ai fait pendant 18 mois avec une technicienne du laboratoire. Nous avons étudié certains problèmes, nous sommes parvenus à certains résultats. Et donc j'ai vécu la vie du laboratoire, la vie modeste du laboratoire, et avec, je dois le dire, un plaisir immense. J'ai opéré des rats, j'ai enregistré des électroencéphalogrammes, j'ai lu des kilomètres de papier d'électroencéphalographie avec cette technicienne, j'ai fait des statistiques, j'ai fait donc le travail modeste du chercheur de laboratoire et j'ai appris que l'on pouvait se tromper. Ce qui est une leçon pour un philosophe assez forte.
De se tromper ?
Oui.
Savoir qu'on peut se tromper ?
De réaliser quand on se trompe, c'est une expérience assez forte. Et ça, je dois Michel Jouvet, je le répète, d'avoir pu prendre une expérience directe de ce que c'est que la recherche scientifique, avec toutes ses dimensions, y compris les dimensions de l'erreur, mais les erreurs sont extrêmement fécondes.
Alors venons-en, si vous voulez bien, à la partie hématologie. C'est une autre rencontre, deux rencontres, celle de Marcel Bessis et de Jean Bernard. Nous sommes aux alentours des années 80, 83. Pareil, comment se passe cette rencontre ? Donc vous venez de quitter le laboratoire de Michel Jouvet ou vous faites ça en parallèle ?
Oui, c'était en parallèle. Un philosophe dans un laboratoire, ça peut faire un petit peu de bruit. Un petit peu. Et donc...
Vous n'étiez pas tellement accepté, c'est ça que vous voulez me dire ?
Non, c'est pas ça du tout. La chose remonte en réalité plus loin, si on veut être précis. Marcel Bessis avait été contacté par l'éditeur Pierre Berès dans la maison Hermann lorsque ma thèse a été publiée. Ma thèse a été publiée au début de mon séjour chez Michel Jouvet à Lyon. Et donc Marcel Bessis avait été contacté par Pierre Berès pour, le cas échéant, lire cet ouvrage ou en faire un compte-rendu, etc. Bon, peu importe. Et alors Marcel Bessis m'avait écrit. Et je ne connaissais absolument pas, bien entendu, l'Institut de pathologie cellulaire de Bicêtre, ni les travaux de l'hématologie, ni tout ce qu'ils avaient fait. Alors j'avais répondu un petit peu naïvement que je n'étais pas réellement intéressé par ces choses, que je ne voyais pas pour l'instant comment être associé. Et puis, un beau jour, j'ai dû recevoir une lettre beaucoup plus ferme, me convoquant littéralement à Bicêtre, parce qu'à cette époque-là, Marcel Bessis était à Bicêtre, dans l'Institut de pathologie cellulaire, Et il y avait là Marcel Bessis et Monsieur Jean Bernard. Et ils me posèrent la question suivante. Pouvez-vous nous parler de l'esprit des protéines ? Alors j'ai eu, je dirais, l'inconscience de leur répondre que l'esprit des protéines, c'était plus tellement mon problème, que mon problème, c'était l'expérimentation, que j'étais dans le laboratoire de Michel Jouvet et que j'abordais véritablement d'autres continents que ceux de la théorie physico-chimique. À partir de ce moment, un lien s'est noué, s'est approfondi pendant des années et des années. Ça a été une autre partie de ma vie que d'être là encore au contact direct de la recherche hématologique, qui est évidemment un autre grand domaine. Il y avait été, évidemment, à côté de Jean Bernard et Marcel Bessis, il y avait Jacques-Louis Binet. C'est un énorme bâtiment que je ne connaissais pas du tout et dont j'ai découvert, je dirais, la rigueur très grande. La rigueur dans les méthodes expérimentales, la rigueur dans les méthodes de préparation, etc. La rigueur très grande et la richesse extraordinaire. Alors, il s'agissait bien sûr de la pathologie cellulaire, des leucémies, comme on peut très bien l'imaginer. Il s'agissait aussi d'autres problèmes de fonction, des globules rouges, des globules blancs, etc., etc., des problèmes de classification. Et donc, ils m'ont véritablement associé à certains de leurs colloques. D'ailleurs, nous avons fait un colloque commun sur le soi et le non-soi en 1989 ou 90. C'était à la Salpêtrière parce que Marcel Bessis avait obtenu la création d'un bâtiment pour son centre d'écologie cellulaire à la Salpêtrière. Et donc, ça a été un colloque parmi d'autres colloques. Et là, j'ai appris vraiment ce que c'était qu'un colloque international, scientifique, de très haut niveau, parce que les gens qui venaient là, c'était véritablement parmi les fondateurs de l'hématologie de l'après-guerre.
Alors, à leur côté, vous travaillez sur l'histoire et la classification des leucémies. Vous le disiez également sur la mort cellulaire, l'apoptose, et sur le soi et le non-soi. Donc j'imagine que tout ça, ça prend beaucoup de temps.
Ça a pris un certain temps, bien sûr. Bon, les choses se sont développées. Bon, je suis resté chez Michel Jouvet à Lyon pendant 8 ans. Et puis, de plus en plus, mon insertion parisienne s'est faite également du côté de la Salpêtrière, donc. Et ça prend beaucoup de temps, mais ce colloque sur le soi et le non-soi, ça a été effectivement un moment important. Pourquoi ? C'était à la fin des années 80. Les questions d'identité se posaient. Elles se posent toujours, oui. D'ailleurs, il y a toujours des colloques sur l'identité, aussi bien sur le plan biologique que sur d'autres plans. Et ça a été un moment particulier. Pourquoi ? Parce que la conceptualisation immunologique, avec ces termes de soi et de non-soi qui sont toujours utilisés et dont on n'arrive pas à se défaire, mais sur lesquels on a beaucoup d'interrogations, la conceptualisation hématologique, ou je dirais la théorisation hématologique, immunologique, et là je voudrais citer les travaux de ma collègue et amie Anne-Marie Moulin, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'immunologie avec des immunologistes, y compris Niels Jern, prix Nobel tout de même. Donc nous étions plusieurs en France à étudier un petit peu ces questions. Eh bien, l'aspect immunologique des choses, l'aspect immuno-hématologique des choses et l'aspect philosophique des choses, évidemment, et l'aspect, je dirais, épistémologique, un petit peu comme ça, de critique des termes, de critique de la terminologie, pouvaient se rapprocher. Et ça a été extrêmement intéressant. Parce qu'on a touché du doigt la nécessité de redéfinir beaucoup de choses au cours de ce colloque.
Même si actuellement la question d'identité n'est pas encore tranchée, mais sur d'autres plans.
Sur d'autres plans, bien sûr.
Venons-en, si vous le voulez bien, à Strasbourg. Strasbourg, une autre période de votre vie, où là, sous la houlette de Pierre Carli, vous prenez la responsabilité du Centre européen d'histoire de la médecine à Strasbourg. On vous appelle sur un coup de fil et puis vous descendez avec vos bagages pour prendre la responsabilité de ce centre européen ?
C'est pas tout à fait ça, mais presque. Vous savez, dans les carrières, il y a toujours des moments de flottement. On se décide ou on ne se décide pas. Je suis revenu à Paris et puis, effectivement, j'ai été pressenti par Pierre Carli pour prendre la responsabilité du Centre européen d'histoire de la médecine qu'il avait créé à la faculté de médecine de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Et je n'ai pas hésité une seconde, pas plus que je n'ai hésité à aller chez Michel Jouvet à Lyon. Je n'ai pas hésité une seconde. Pourquoi ? Parce qu'après des années, je dirais, marquées par l'attraction américaine, j'étais allé à Stanford, j'étais revenu à Harvard, au MIT, etc. Une replongée vers d'autres racines, plus européennes et plus germaniques, m'attirait beaucoup. Et d'autre part, de rester dans un environnement scientifique et médicale, parce que j'avais quand même passé 8 ans de ma vie à la faculté de médecine de Lyon. Et j'allais passer 8 autres années à la faculté de médecine de Strasbourg. Et entre-temps, j'avais été en contact, et je restais en contact, bien sûr, avec la Salpêtrière. Donc, ça a été une transition que je ne regrette absolument pas d'être allé à Strasbourg, parce que ça m'a ouvert d'autres horizons. Des horizons, je dirais, de plus grande responsabilité. Responsabilité intellectuelle, responsabilité aussi un petit peu, je dirais, de politique scientifique dans le cadre européen. Et si je suis allé à Strasbourg, si j'ai finalement accepté d'aller à Strasbourg, c'était aussi faculté de médecine, donc toujours, et la proximité de l'Allemagne, qui est un pays que j'avais beaucoup connu et dont je sentais que, quelque part, il fallait reprendre des liens. Et ceci nous mène, bien sûr, un petit peu plus tard à la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldine. Donc Strasbourg.
L'histoire des sciences et la philosophie des sciences sont intimement liées.
Oui, et c'est particulièrement le cas à Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, il y a une sorte de tradition très humaniste. Et que je dois dire, bon, qu'on peut retrouver individuellement ailleurs, bien sûr, mais qui, dans les institutions strasbourgeoises, reste quelque chose de très fort, à savoir le lien entre la réflexion, la pratique de la médecine, la réflexion sur l'histoire des sciences, donc sur les changements perpétuels des sciences, y compris des sciences médicales, et puis la réflexion philosophique sur ces sciences-là, qui est nécessaire, la réflexion éthique et choses de ce genre. Tout ça, à Strasbourg, est particulièrement lié. C'est-à-dire, il y a une espèce de concaténation très forte entre toutes ces dimensions de la recherche. Et je dois dire que l'Université Louis Pasteur était un endroit également extrêmement favorable pour tout cela.
Et c'est la raison pour laquelle vous fondez la Société d'Histoire et d'Épistémologie des Sciences de la Vie.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué. On m'a appelé à Strasbourg pour prendre la responsabilité du Centre européen d'histoire de la médecine, pour le développer un petit peu plus, pour assurer le secrétariat d'une association qui était en train de se créer, qui était l'Association européenne pour l'histoire de la médecine et de la santé, ainsi que nous l'avons finalement désignée. Cette association européenne, c'était de mon devoir d'en assurer, je dirais, la gestion quotidienne sous la houlette de Pierre Carli. Alors, il faudrait quand même dire que Pierre Carli, neurophysiologiste, bien connu pour ses travaux sur l'agression, ancien président de l'Université Louis Pasteur, c'était lui qui m'avait fait venir à Strasbourg. Et je souhaite lui rendre cet hommage et le saluer également. Pierre Carli est précisément la figure d'un scientifique, d'un homme de science, d'un médecin qui réfléchit. Qui ne réfléchit pas seulement sur son sujet le plus étroit. Il faut dire que son sujet, c'était l'agression. Et donc, c'est un immense sujet qui a toutes sortes de connotations que tout le monde comprend. Et je veux dire que ce genre de réflexion, nécessairement, donne une ampleur, une ouverture qui, philosophiquement, est très importante. Je crois que, là encore, il faut le dire, il y a quelque chose de particulier chez beaucoup de scientifiques qui ont cette culture et cette ouverture d'esprit qu'il faut saluer.
Et cette société d'histoire et d'épistémologie ?
Alors, la société européenne, eh bien, nous avons travaillé avec la Fondation européenne de la science à l'époque, et ça s'est très bien passé. Donc, c'était dans un cadre européen, avec toutes sortes de collègues, avec des responsabilités de conseils scientifiques, des réunions de conseils scientifiques, etc. Donc, la vie ordinaire, je dirais la vie ordinaire d'une association européenne scientifique. Et puis, il devenait évident qu'il était possible, je dirais qu'il n'était pas impossible, qu'il était possible de faire en France quelque chose d'un petit peu analogue. Et donc, j'ai été l'un de ceux qui ont œuvré pour que quelque chose d'analogue soit fait sur le plan français.
Venons-en pour la fin de notre émission à deux choses qui font partie des sciences du possible, sciences du devenir, qui fait appel à l'imagination et à l'intuition, les biotechnologies et puis la neuro-endocrinologie. Les biotechnologies avec François Gros. Donc on retrouve François Gros que vous aviez déjà croisé une première fois dans votre carrière.
Oui, j'ai croisé François Gros, c'était au début des années 80 et c'était dans le cadre de la structuration de la biologie théorique en France. Chose que François Gros, parmi ses nombreuses actions extrêmement positives, avait dans son champ de regard et il a protégé, je dirais, la structuration de la biologie théorique en France. Il y avait à l'époque une école du CNRS qui était organisée par un monsieur, un ingénieur du CEA, qui était très actif dans ces choses-là. Et il y avait là-dedans également le mathématicien René Thom, et François Gros qui observait les choses et les encourageait, les soutenait. Donc c'est dans ce cadre-là, que dans le cadre de la biologie théorique, qu'au début des années 80, un certain nombre de choses se sont débloquées en France. Et puis les biotechnologies. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent pour moi. J'ai vu, comment dire, à l'occasion du lancement de Biovision à Lyon, qui est une entreprise qui avait été lancée par François Gros avec Raymond Barre et avec l'aide de mon camarade philosophe Dominique Lecourt, qui a fourni un soutien à cette entreprise. Donc, j'ai réalisé qu'il y avait là quelque chose de très très important qui, pour moi, philosophiquement, était une sorte de réflexion, c'est la matérialisation d'une réflexion sur le possible en biologie. Alors cette réflexion sur le possible en biologie, bien sûr, elle avait été en particulier illustrée, lancée d'une manière magnifique par François Jacob, avec sa notion de bricolage évolutif, avec son ouvrage sur le jeu des possibles. Finalement, je voudrais dire que les biologistes français dans leur ensemble ont eu un énorme impact sur ma génération philosophique. Parce que l'ouvrage de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, paru en 70, La logique du vivant de François Jacob, paru peut-être la même année, ça a eu un impact considérable sur un terrain qui était préparé déjà par les travaux et l'influence de quelqu'un comme Georges Canguilhem, et aussi Michel Foucault, bien sûr. Donc, il y a eu une sorte de concrétisation, de rapprochement très fort en philosophie en France, grâce à cette espèce de rencontre. Ça arrive peut-être plusieurs fois par siècle, pas beaucoup plus. Donc François Jacob a été également un moteur philosophique parce qu'il a donné corps à cette réflexion sur le possible. Et François Gros, j'ai réalisé beaucoup plus tard qu'il avait été l'un des moteurs du développement des biotechnologies en France.
Terminons par les neurosciences contemporaines, notamment la neuroendocrinologie, qui fait partie aussi de l'un de vos chevals de bataille.
Oui, la neuroendocrinologie. Il se trouve que j'ai séjourné à Stanford pendant quelques temps et que j'ai pu ainsi me rencontrer, grâce à Michel Jouvet bien sûr, Roger Guillemin, au Salk Institute à San Diego, qui est un bâtiment extraordinairement élégant et un homme extraordinairement, lui aussi, tout à fait fascinant par la rigueur scientifique qu'il incarne. Alors c'est une autre aventure. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la neuroendocrinologie, comme sur l'histoire des classifications des leucémies ou comme sur la mort cellulaire, dans l'esprit suivant, et j'ai été sensibilisé à ça énormément par mon séjour chez Michel Jouvet. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'inconnu. Il s'agit de l'inconnu en quel sens ? Parce que toute science se situe par définition à la frontière de l'inconnu, avec des outils qui sont ou qui ne sont peut-être pas adaptés à ce qu'on va découvrir. Et je crois que la formulation la plus frappante de cela a été donnée par Louis Pasteur dans son discours de réception à l'Académie française, où il dit quelque chose comme l'inconnu dans le possible. L'inconnu dans le possible, c'est, le champ d'action naturel du scientifique. Il imagine des possibilités, il ne sait pas toujours si elles vont se réaliser, etc., etc. Donc, l'inconnu dans le possible. Bon, on doit postuler que certaines fonctions biologiques existent. C'est ce qu'a fait Roger Guillemin. Et puis ensuite, on doit essayer de les préciser, de trouver leurs acteurs, de trouver les agents moléculaires de ces fonctions. Tout ça est un autre travail considérablement précis. On rejoint, au fond, toutes ces grandes disciplines médicales. Ce sont des disciplines où la précision, la plus grande précision, est la règle. Je rejoins tout à fait l'expérience avec les hématologistes, avec Jean Bernard, avec Marcel Bessis, avec Jacques-Louis Binet, où ce que j'ai pu voir, enfin, pas directement, mais enfin, voir quand même, de la neuroendocrinologie, donc on retrouve cette espèce d'exigence de la précision dans la découverte, la définition des fonctions et des agents de ces fonctions biologiques.
Merci Claude Debru. Alors j'invite nos auditeurs à écouter une autre émission que nous allons réaliser ensemble, une émission consacrée à la neurophilosophie du rêve, où là vous pourrez nous parler plus en détail de vos travaux en compagnie de Michel Jouvet. Alors, l'inconnu dans le possible, phrase de Louis Pasteur, je pense aussi qu'elle vous va bien, Claude Debru. Je vais redonner les quelques titres des ouvrages que vous avez publiés. Le premier, l'esprit des protéines, histoire et philosophie biochimique, aux éditions Hermann, vous nous avez parlé au cours de cette émission, publié en 1983. Et puis l'autre ouvrage qui en fait reprend les résumés du colloque, l'imagination et l'intuition dans les sciences, avec la contribution, la vôtre déjà, votre contribution, mais également celle de Pierre Buser, vous l'avez cité au cours de l'émission. Et d'Andreas Kleinert, qui donc symbolise les rapports avec l'Allemagne. Pareil aux éditions Hermann et une publication beaucoup plus récente, je crois que c'est 2009. Et donc, encore quelques ouvrages que je n'avais pas sous la main, mais que vous avez sous les yeux, vous allez pouvoir nous les citer.
Oui, alors effectivement, à l'issue de mon séjour chez Michel Jouvet, j'ai rédigé un livre qui est une comparaison des travaux français et des travaux américains sur le sommeil et le rêve, qui s'intitule « Neurophilosophie du rêve », qui a eu une deuxième édition avec une préface de Michel Jouvet en 2006 chez Hermann. J'ai également publié une philosophie de l'inconnu qui rassemble des thèmes donc, qui ont déjà été évoqués il y a quelques instants, et qui a été publié aux presses universitaires de France, puis republié chez Hermann récemment sous le titre « Penser l'inconnu ». J'ai rédigé un ouvrage « Le possible et les biotechnologies » qui a été publié aux presses universitaires de France en 2004, je crois, qui reprend la question du possible et, bien sûr, la question des biotechnologies dans un contexte qui était assez difficile, à l'époque assez tendu. J'ai émis personnellement un jugement plutôt positif parce que les jugements négatifs ne doivent pas l'emporter sur les jugements positifs. Et puis, plus récemment, j'ai publié un petit ouvrage aux éditions Presse de la rue d'Ulm sur mon maître Georges Canguilhem, « Science et non-science ». Et encore plus récemment, « L'essor des neurosciences », paru chez Hermann, c'est un travail collectif d'assez longue durée sur le développement extraordinaire des neurosciences en France après 1945 et jusque dans le milieu des années 1970, où la plupart des grands acteurs ont pu s'exprimer, en tout cas des grands acteurs encore vivants.
Merci Claude Debru. Et puis alors, il me reste à vous souhaiter un bon retour pour une prochaine émission sur le site de Canal Académie. Merci Claude Debru, à bientôt. Au revoir.